Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Happy Boulot, le mag. Argent, salaire, bonus, rémunération, on va décrypter l'évolution de ce qu'on a gagné depuis un an. On va faire ça avec le cabinet Deloitte, c'est Sophie Lazaro qui viendra nous aider à décrypter. On va continuer à parler argent en zoomant sur votre bulletin de paie. Vous savez que la majorité des Français n'y comprend rien. C'est Florian Fournier, le cofondateur de Payfit, qui viendra nous éclairer sur notre rapport à ce petit bout de papier qu'on reçoit, parfois ce PDF, chaque mois. Et puis pour conclure, on parlera de l'épargne salariale avec Julien Niquet, le cofondateur d'Ebsor, l'épargne salariale qui s'avère dans ce contexte économique et d'inflation compliquée, eh bien un vrai levier pour les employés et les employeurs pour augmenter le pouvoir d'achat.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
On va s'intéresser au salaire. On va faire ça avec Deloitte. C'est Sophie Lazaro qui est avec nous. Bonjour Sophie.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes la directrice conseil capital humain avec nous pour décrypter l'évolution de nos rémunérations depuis un an. Alors je dis rémunération et pas salaire parce qu'on va s'intéresser à tout ce que les salariés gagnent. Pas seulement le salaire, également les primes, les variables et les bonus. Alors résumez-nous en trois points ce qu'il faut qu'on retienne de votre étude annuelle sur l'évolution de notre rémunération.
Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur le contexte dans lequel s'est réalisé finalement ces révisions salariales. Un contexte à nouveau inédit. Hein. Après deux ans de Covid, on pensait que rien ne pouvait être plus inédit. Finalement, une inflation très très forte. Un contexte géopolitique qui a des impacts forts sur les denrées alimentaires ou encore l'énergie. Et des tensions sur le marché du travail avec cette reprise économique notamment. Donc alors les trois points à retenir, je dirais que c'est le fait que les augmentations repartent à la hausse avec des niveaux d'avant-crise. Le fait que les entreprises ont utilisé aussi les dispositifs de variables que vous évoquiez en introduction, donc variables court terme, prime PEPA. Et puis le dernier point, c'est que les avantages sociaux se sont aussi invités à la table des négociations afin d'offrir un package de rémunération et avantages sociaux attractifs.
Donc si je résume, malgré un contexte d'inflation très fort, finalement, les Français sont mieux payés.
Alors, les augmentations, elles repartent à la hausse avec des niveaux d'avant-crise.
Avant-crise, ça veut dire pré-Covid 2019
Exactement. Avant-crise, pré-Covid 2019, avec 2,5% d'augmentation en médiane pour les cadres et les non-cadres. C'est un niveau, effectivement, en deçà de l'inflation, hein, qui est à plus de 5%. Maintenant, il faut aussi revenir en arrière, regarder dans le rétroviseur et de se dire que depuis 2008, nous avions un contexte qui était complètement différent. C'est-à-dire que pendant plus de 10 ans, on a eu un taux d'inflation très très bas. Ouais. Et des augmentations de salaire qui étaient autour des 2%. Donc finalement, mécaniquement, on a eu un gain de pouvoir d'achat d'environ 14% sur ces 10 dernières années. Et là, effectivement, on a une perte de pouvoir d'achat instantanée, on espère conjoncturelle et sur du court terme, pour lequel les entreprises ont réagi avec des augmentations, avec des niveaux d'avant-crise.
Alors je vais vulgariser aussi, et peut-être vous allez me corriger Sophie, c'est-à-dire que pour les entreprises qui connaissent une santé économique solide. En gros, elles ont bien récompensé leurs salariés en utilisant pas seulement le traditionnel salaire qu'on reçoit sur la fiche de paie. Quels sont les outils qui ont été bien aimés et bien utilisés par les entreprises?
Alors les entreprises, elles ont augmenté largement leurs collaborateurs, comme on le disait. Il y a seulement 7% de collaborateurs qui n'ont pas été augmentés cette année versus 45% l'année dernière. Donc ouais, la majorité ont eu la traditionnelle augmentation du salaire de base. Ensuite, les primes sur objectifs ont été largement utilisées avec un vrai hausse de bénéficiaires qu'on a pu constater cette année. Et alors, taux historique, un taux d'atteinte du variable, c'est-à-dire entre le variable cible et le variable atteint, exactement, 94% en moyenne de taux d'atteinte, versus finalement des taux autour de 85% les 10 dernières années. Donc là, ça a vraiment marqué le coup de la reprise économique et pour récompenser les collaborateurs qui se sont mobilisés sur cette reprise.
Les récompenser et puis les fidéliser et faire en sorte qu'ils ne bougent pas trop, parce qu'on l'observe en France, il y a une grosse mobilité des salariés. Est-ce que votre étude prend le pouls aussi de cette mobilité, de ce mouvement de démission pour aller chercher un petit peu plus, un petit peu mieux ailleurs.
Alors nous, on le ressent ce mouvement parce qu'on a énormément de demandes de nos clients sur des benchmarks de rémunération pour s'assurer qu'ils sont au bon niveau pour pouvoir attirer et retenir les collaborateurs.
Alors on parlait des rémunérations des collaborateurs, évidemment vous allez me voir venir. Comment ça se passe, collaborateur versus collaboratrice? Où en est l'écart salarial homme-femme?
Alors, j'ai envie de dire, tous les feux sont au vert sur les augmentations versées, les primes versées et les prévisions salariales pour 2023. Il y a un seul indicateur qui n'est pas au vert, c'est l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous, chez Deloitte, on surveille ça de près. Et ça fait 3 ans qu'on observe une stagnation des écarts salariaux entre les hommes et les femmes.
3 ans, donc crise Covid.
Donc on s'est dit, crise Covid, 2 ans, maintenant cette année, on devrait avoir une dynamique un petit peu meilleure. C'est pas le cas. En fait, on a des écarts salariaux qui stagnent depuis 3 ans, qui sont autour de 3,7% quand on descend très finement, c'est-à-dire à niveau de temps de travail équivalent, à niveau de responsabilité équivalent. 3,7%, sauf que cela est supérieur à ce qu'on avait en 2017.
Ça veut dire qu'il y a 3,7% de différence entre la rémunération d'un homme global et celle d'une femme en moyenne sur la France, tous ces
en moyenne, à niveau de responsabilité équivalent. Tout à fait. Et là, du coup, on se retrouve à des niveaux de 2017, enfin supérieurs à 2017. Et c'est là que c'est inquiétant, parce que 2017, rappelons-nous que c'est la date de mise en place de l'index égalité salariale. Oui. Donc, c'est le moment où on a vraiment mobilisé les entreprises sur le sujet.
Donc, on a vraiment de quoi benchmarker, quoi. Avec cet index, on sait qu'on ne se trompe pas sur les chiffres.
Voilà. Et il faut y travailler sérieusement dans nos organisations.
Alors, un autre écart qu'on peut peut-être mesurer, c'est entre Paris et les régions. Est-ce qu'on observe quelque chose de particulier?
Alors, on observe un écart en moyenne de 5% entre Paris et la province en grand, toutes régions confondues. C'est un indicateur finalement relativement stable, même si c'est l'écart s'est un peu réduit.
Ouais.
Il y a plus de 10 ans, on parlait de 10% d'écart. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a plutôt des politiques nationales dans nos organisations. Et n'oublions pas que la mobilité aussi, le télétravail en région, fait qu'on a finalement un tassement de ces écarts.
Justement, le télétravail, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre étude, l'évolution sur un an? Est-ce qu'il s'est sédimenté, il est rentré tout à fait dans les mœurs, et si oui, combien de jours par semaine? Est-ce que vous savez ça?
Oui, on a interrogé nos clients sur le sujet. On est à 2 jours en moyenne par semaine de télétravail. Alors, ce n'est pas le Big Bang qu'on imaginait avec les 3 jours. On est resté sur du 2 jours en moyenne. Ce qui est important, c'est que c'est ancré dans le temps, parce que 75% des entreprises ont finalement ancré ce télétravail dans un accord ou une charte de télétravail.
2 jours en moyenne par semaine, tout secteur confondu.
Tout secteur confondu, exactement. Et effectivement, avec des emplois qui ne sont évidemment pas télétravaillables, mais pour les emplois télétravaillés, on est bien à 2 jours en moyenne.
Alors là, on se parle, on est en septembre 2022, on est dans un contexte économique d'inflation, de pénurie, de tension sur le marché de travail. Il n'y a pas de raison que ça s'améliore à court terme. Comment vous sentez que les entreprises préparent ce contexte économique complexe pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, pour le prochain semestre?
Alors, les entreprises se sont mobilisées très tôt. Dès cet été, dès le mois d'août, on a eu des sollicitations des entreprises qui préparent déjà les révisions salariales 2023. Donc,
on est déjà en train de faire les budgets rémunération.
À peine on a fini 2022, qui sont déjà dans cette préparation 2023. Effectivement, benchmarker, mesurer un peu le pouls du marché. On a des prévisions d'augmentation 2023 qui sont très très fortes, historiquement très très fortes. On est à 3,5% pour les non-cadres et 3% pour les cadres. Donc c'est très optimiste. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on va surveiller de près via des enquêtes flash qu'on réalise tous les 2 mois pour questionner les entreprises sur leurs prévisions d'augmentation, parce que, comme vous le dites, tout peut bouger très très vite.
Il y a aussi la rentrée sociale, puisqu'on est en septembre. On anticipe quand même un contexte assez tendu au niveau des négociations entre les différents représentants à l'intérieur de l'entreprise. Comment vous sentez que les entreprises en France se préparent à négocier dans des bonnes conditions?
Alors, les entreprises se préparent déjà en benchmarkant, en se comparant au secteur, en essayant d'avoir des données les plus fiables possibles, dont celle de Deloitte. Elles cherchent effectivement à voir tous les dispositifs qui sont à leur disposition aussi pour pouvoir répondre à quelque chose d'assez conjoncturel à travers cette inflation, parce qu'on l'a évoqué, on a évoqué les augmentations de salaire de base, on a évoqué toute la partie variable. Dans le variable, n'oublions pas qu'il y a la prime PEPA qui a été encore utilisée cette année.
Anciennement prime Macron, voilà.
Anciennement prime Macron, qui devient prime de partage de valeur. Donc, la prime PEPA a été très plébiscité hein, cette année. On a eu 29% des organisations qui l'ont utilisé versus 18% l'année précédente. Alors avec des montants médians un petit peu plus faibles, hein, autour de 300 euros. Mais voilà, ce sont une série de dispositifs qui sont à disposition des entreprises et c'est ça qu'elles regardent aujourd'hui. Elles regardent aussi, comme vous l'évoquiez, les avantages sociaux, comment je peux offrir un package attractif et surtout un équilibre de vie au-delà du monétaire.
Et oui, cet équilibre de vie, vous le dites, les entreprises le regardent, mais les salariés et les futurs salariés ou les futurs ex-salariés le regardent aussi. Alors, on parle beaucoup de télétravail, de travail à la carte, de congés, congés illimités, mais aussi de congés sabbatiques. Tout ça, c'est une série d'outils dont disposent les employeurs et les employés pour travailler mieux ensemble et avoir un meilleur équilibre. Est-ce qu'on a une idée du coût de cette flexibilité qui devient la norme, qui vient faire partie du package salarial? Est-ce qu'on sait combien ça coûte et combien ça risque de coûter dans l'année à venir? Pour conclure, Sophie.
Alors, difficile d'évaluer l'ensemble de ces dispositifs. En tout cas, les entreprises cherchent à être les plus innovantes possibles. C'est un petit peu le concours aux entreprises les plus innovantes. Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer à mes collaborateurs avec ces notions de flexibilité à la carte? C'est-à-dire, c'est comme le télétravail, c'est de se dire, je ne vais pas forcément imposer un nombre de jours, mais donner une certaine flexibilité, agilité, pour finalement s'adapter au moment de vie et aux différentes générations que l'on doit gérer dans nos organisations aussi.
Merci beaucoup Sophie Lazaro. Je rappelle que vous êtes directrice conseil capital humain chez Deloitte, avec nous pour décrypter cette étude annuelle. Restez justement avec nous parce qu'on va continuer à parler des outils dont disposent les employeurs pour rémunérer, fidéliser et attirer des salariés, notamment la fiche de paie. Est-ce que ça ne vous dirait pas d'avoir une fiche de paie à laquelle vous comprenez quelque chose? Restez avec nous, on en parle tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Better Together avec votre bulletin de paie. Vous le recevez peut-être tous les mois et comme moi, tous les mois, vous n'y comprenez rien. Bien, figurez-vous que vous n'êtes pas seul parce que le bulletin de paie, c'est un casse-tête pour les Français et c'est pas Florian Fournier, le cofondateur de Payfit, qui va nous dire le contraire. Bonjour Florian.
Bonjour Lorraine, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous. C'est pas faute d'essayer parce que 86% des salariés cherchent, on imagine tous les mois, à décrypter et cherche à essayer de comprendre leur fiche de paie, à comprendre les différents éléments. Qu'est-ce qui pose le plus problème dans notre fiche de paie?
C'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est 86% de Français qui cherchent à décrypter leur bulletin de salaire. Il y en a simplement un tiers d'entre eux qui arrivent à comprendre l'ensemble des lignes de leur bulletin.
Alors, sont-ils plus intelligents que la moyenne?
Alors, non. Malheureusement, sur le bulletin de paie, il y a quand même beaucoup de lignes qui sont propres à la complexité législative française, qui est très difficile de comprendre si on n'est pas expert. Et du coup, on les comprend très bien. C'est deux tiers de Français qui ne comprennent pas l'ensemble de ces lignes telles que la CSG déductible de l'impôt sur le revenu.
Je suis sûre que ça parle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, soyons très concrets. En France, la fiche de paie, c'est 40 lignes. 40 lignes en moyenne, 16 en Belgique et en Grande-Bretagne, 15 en Allemagne et 10 en Chine. Alors, qu'est-ce qui est obligatoire dans ces 40 lignes, Florian?
Alors, c'est vrai qu'en France, sur le bulletin de paie, on est obligé de faire apparaître de nombreuses mentions qui vont être propres à l'entreprise, à la convention collective de l'entreprise et à l'ensemble des règles de calcul pour les cotisations de sécurité sociale. Et du coup, on doit faire apparaître l'ensemble de ces lignes et du coup, c'est très difficile à la fin pour un employé de comprendre qu'est-ce qui est le plus important pour lui, comme par exemple le salaire net qu'il recevra à la fin du mois par rapport à ces 30 ou 40 lignes qui vont apparaître et qui vont être obligatoires sur chacun des bulletins. Et c'est pour ça que on s'est dit, OK, on voit tous ces Français qui ont cette complexité ou cette difficulté à lire leur bulletin et on a créé un bulletin beaucoup plus simple que tous les salariés qui utilisent Payfit vont avoir, avec simplement les mentions importantes. Donc les quelques lignes qui permettent d'expliquer comment le salaire net d'un employé est calculé à partir de son salaire brut.
Information quand même pas négligeable.
Ses compteurs de congés, ses cumuls depuis le début de l'année, qu'il aura besoin notamment pour le calcul de son impôt sur le revenu. Et du coup, ce bulletin de paie simplifié, c'est vraiment pour adresser ces deux tiers de Français aujourd'hui qui ne comprennent pas leur bulletin et pour lesquels on veut leur simplifier la vie.
Ah oui, chez Payfit, vous, votre boulot, c'est la paie, c'est la gestion des ressources humaines. Ce besoin de simplifier le bulletin de paie, il est venu de vous ou de vos clients? Comment vous êtes dit, il faut bouleverser cet outil qui, visiblement, est d'un autre âge?
Il est venu clairement de nos clients, des centaines de milliers d'employés qui aujourd'hui utilisent Payfit. Et en adressant toutes ces questions que les employés posent à leurs dirigeants, à leurs équipes HR, on s'est dit, pourquoi pas nous Pourquoi on leur simplifierait pas la vie en leur permettant à chaque employé en autonomie, qu'il soit expert de la paye ou non, de comprendre son bulletin. Et du coup, c'est vraiment, après, on a développé main dans la main avec nos clients et ces employés qui utilisent PayFit, cette solution où on va avoir ce bulletin de paye simplifié, intelligible par tous, et on a fait vraiment beaucoup de tests pour pouvoir dire ça aujourd'hui, et ce bulletin de paye, on va dire, plus complexe, qui répond aux contraintes légales, qui fait apparaître ces 40 lignes qui sont obligatoires, mais où, quand même, on a voulu expliquer comment c'est calculé, de manière plus simple que ce qu'ils avaient auparavant.
Florian, en termes de retour client, quelle partie du bulletin de paie pose le plus de problèmes? Je pense évidemment à l'imposition à la source qui a bouleversé notre rapport au bulletin de paie, puisqu'on doit aller piocher cette information nous-mêmes pour notamment faire notre déclaration. Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes?
Ce qui pose le plus de problèmes aux employés, c'est la compréhension de toutes ces lignes qui permettent de passer du salaire brut d'un employé à son salaire net. Parce qu'on a le salaire brut qui correspond à ce que l'employeur doit payer, avec les variables de paye qui sont en général bien comprises par le salarié, comme les bonus, les absences du salarié. Et après, il va y avoir au moins une vingtaine de lignes qui vont calculer les contributions pour les organismes de retraite, de santé, avant d'arriver au salaire net imposable, sur lequel va être calculé l'impôt que va devoir payer le salarié, puis le salaire net de l'employé. Donc je dirais, il y a les informations employées qui sont faciles à comprendre, les informations de l'entreprise, le salaire brut, ensuite le salaire net, mais il y a toutes ces lignes qui viennent rendre très complexe la lecture d'un bulletin de paie en France.
Et pourtant, le bulletin de paie, il est compliqué à lire, mais il est essentiel dans plein de moments de la vie, du salarié en tant que salarié, mais du salarié en tant que potentiel locataire, du salarié en tant que personne qui veut acheter un appartement. Est-ce que ça ne deviendrait pas un avantage pour attirer des candidats ou conserver des salariés, d'avoir un joli bulletin de paie? On parle beaucoup de la place du bureau, on parle beaucoup de la place du télétravail, mais est-ce que finalement avoir un joli bulletin de paie, ça pourrait pas être un argument de la marque employeur?
Alors, un joli bulletin de paie, je pense que c'est important, mais le plus important, c'est cette relation de confiance entre l'employeur et l'employé. Je pense que dans le contexte économique actuel, pour beaucoup d'employés, le bulletin de paie va devenir encore plus important, parce que c'est un gage de confiance. C'est au cœur de la relation employeur-employé et ça va servir pour plein de moments hyper importants dans la vie d'un employé, pour un appartement, pour un emprunt. Et dans un contexte, on va dire, assez tendu économiquement, le bulletin de paie, il va être de plus en plus important et ça va être de plus en plus, je pense, important pour un employé d'être sûr, d'avoir cette confiance que le montant qu'il reçoit à la fin du mois est le bon montant. Et du coup, l'explication et la clarté d'un bulletin de paie, je pense, va devenir de plus en plus importante. Et on est très content de répondre à cette attente des Français en simplifiant ce bulletin de paie.
Simplifier le bulletin de paie qui inclut beaucoup d'informations qui concernent le salaire directement. Est-ce qu'on peut imaginer un bulletin annuel chez PayFit qui viendrait justement lister tous les éléments dont on parlait juste avant vous avec Deloitte, notamment les bonus, les primes, les variables, un bulletin de paie annuel? Est-ce que c'est un produit sur lequel vous pourriez travailler?
Alors, c'est un produit sur lequel on pourrait travailler, mais on adresse déjà ce besoin dans cette section, dans ce bulletin de paie simplifié. On a une section qui est propre au cumul annuel. Du coup, le cumul du salaire brut, du salaire net ou du salaire net imposable ou encore de l'impôt prélevé à la source de l'employé est déjà présent. Et l'employé, sur cette synthèse, en quelques lignes, est capable de voir ces cumuls qui sont effectivement hyper importants.
Florian, chez PayFit, est-ce que vous avez une idée du nombre de fois où les salariés qui utilisent votre logiciel vont consulter leur fiche de paie par mois?
Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il y a 7% des collaborateurs qui ont complètement abandonné l'idée d'aller lire leur bulletin de paie. Par contre, pour le reste des collaborateurs, ils vont y aller en moyenne tous les mois, soit pour vérifier que le montant qu'ils ont reçu sur leur compte.
Vous voulez dire qu'il y a des gens, il y a 7% des gens qui vont même pas consulter leur fiche de paie, qui regardent juste leur virement, par exemple, sur leur compte en banque.
C'est exactement. Et c'est confirmé par cette étude, c'est impressionnant. Cette étude qui a été menée conjointement entre PayFit et Ipsos, il y a 7% des employés aujourd'hui qui ont soit cherché à décrypter et n'ont pas réussi à décrypter, ils se sont dit, bon, je vais plus du tout creuser ce bulletin de paie. Il y en a d'autres juste qui n'ont jamais eu l'intérêt et qui considèrent que c'est pas un sujet important pour eux.
Voilà, le bulletin de paie, vous voyez, un casse-tête pour beaucoup de salariés, très compliqué à décrypter, mais il y a des moyens d'améliorer l'utilisation de cet outil mensuel. Merci beaucoup Florian Fournet. Vous êtes le cofondateur de Payfit. On a fait le tour voilà, de ce bulletin de paie, vous voyez, qui peut être un vrai outil de rétention, d'attraction et puis un outil au quotidien pour améliorer votre relation avec vos salariés. On va continuer à parler de ce qu'on gagne. On va zoomer sur un des leviers qui vous permet peut-être de payer mieux vos salariés ou d'être mieux payé par votre employeur sans forcément augmenter le salaire. On va parler d'épargne salariale. Restez avec nous tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Le business case du jour, c'est comment augmenter le pouvoir d'achat des salariés sans toucher au salaire. Évidemment, l'idée, c'est de ne pas se retrouver à payer des charges patronales et salariales en plus. Une des solutions, c'est peut-être l'épargne salariale. Avec nous, pour en parler, c'est Julien Niquet. Bonjour Julien.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le cofondateur d'Epsor, une start-up qui simplifie justement ce rapport à l'épargne salariale que très souvent, on pense réservé aux très grands groupes. C'est faux. Dites-nous pourquoi.
C'est exactement faux. C'est faux parce que, il est vrai que la majorité des grandes entreprises bénéficient d'épargne salariale, en proposent à leurs salariés. Quand on est salarié d'un grand groupe, on a accès à ces dispositifs-là. Mais on a aussi accès à ces avantages-là dans les plus petites entreprises. C'est moins répandu, mais les petites entreprises ont tout intérêt à les mettre en place aussi.
Alors, juste avant vous, on était avec Payfit qui nous dévoilait qu'il y avait 7% des salariés qui n'ouvraient même plus leur fiche de paie. Trop compliqué. L'épargne salariale, c'est aussi, ça semble aussi assez compliqué. Quel est le rapport des salariés à l'épargne salariale, Julien ?
Alors, je vous le confirme, j'étais pas plus tard qu'hier devant les organisations syndicales d'une grande entreprise. On parlait avec eux du rapport de leurs salariés à leur dispositif d'épargne salariale. Et ce qu'ils nous disaient, c'était c'est trop complexe. La matière elle-même est complexe dans l'absolu, mais souvent, il n'y a pas assez d'accompagnement. Et de la part de l'entreprise, et de la part du prestataire. On a besoin d'être guidé, on a besoin d'avoir des conseils sur quoi faire de cette prime, qu'est-ce qu'elle représente, comment la placer, comment l'investir. Pareil sur la retraite, c'est des sujets sur lesquels aujourd'hui il y a un vrai flou, une vraie opacité.
Quel est le pourcentage d'entreprises qui est concerné par cette épargne salariale ?
Alors sur les TPE-PME, on est entre 10 et 20% en fonction des catégories où on s'arrête sur le nombre de salariés, donc c'est relativement peu. En revanche, sur les grands groupes, c'est quasiment unanime, hein, quasiment à chaque fois.
Voilà, on en parle de cette épargne salariale parce qu'elle est au cœur de l'actualité en droit social. Dans le sillage, cet été, évidemment, la loi de finances et puis du paquet pouvoir d'achat. Expliquez-nous rapidement, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ce qui a changé cet été autour de l'épargne salariale et pourquoi ça devient un outil beaucoup plus agile pour les entreprises.
En fait, dans la loi qui a été promulguée en août de cet été, il y a trois éléments qui ont été particulièrement marquants. Il y a le fait de faciliter la mise en place d'accords d'intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés, le fait de faciliter les démarches encore plus pour les entreprises. Donc ça, c'est un élément. Il y a un cas de déblocage supplémentaire qui a été ponctuellement autorisé par la loi jusqu'à 10 000 euros par salarié qui est en train d'être opérationnellement mis en œuvre par les prestataires.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir débloquer ponctuellement 10 000 euros pour un projet et on ne sera pas taxé dessus.
Exactement. Ça, c'est nouveau. Et le troisième élément qui est notable dans ce projet de loi, ce n'est pas sur l'épargne salariale, mais sur un élément qui s'y approche, c'est sur la prime dite Macron, la prime PEPA, la prime de partage de la valeur. Donc, il y a plusieurs noms. Et là où le plafond était jusqu'à maintenant à 3 000 euros par salarié, il est passé à 6 000 pendant l'été.
Alors, ces compléments de rémunération alternatifs au salaire, est-ce qu'ils sont rentrés dans les usages attendus par les salariés et les candidats ? Est-ce que vous sentez que quand on postule pour un job, maintenant, les candidats, ils veulent avoir marqué sur leur job description le fait qu'à un moment, il va y avoir cette épargne salariale ? Est-ce que vous sentez que ça a changé depuis que vous êtes lancé Epsor ?
On trouve que ça a changé. On trouve que ça a changé parce que les entreprises en parlent de plus en plus. On est dans un marché du travail où il y a une compétition aux talents qui est particulièrement marquée. Donc, il y a aussi une forme de course à l'échalote pour se différencier, pour faire valoir ses avantages. Et donc, on voit des entreprises, je veux dire, les plus historiques, qui sont là depuis assez longtemps sur le marché, qui travaillent à mieux faire valoir finalement les avantages qui sont présents depuis longtemps dans l'entreprise. Et donc, maintenant, c'est des choses sur lesquelles elles communiquent de plus en plus. Elles cherchent à se différencier. Elles ont pas forcément, elles ont plein d'atouts. Et donc, parmi les atouts, il y a des avantages salariés qui sont souvent présents depuis longtemps et qui sont souvent assez importants dans le package global de rémunération. Et donc, on voit que les salariés s'y intéressent. Et c'est d'autant plus marqué sur le marché du travail que même les, je veux dire, les startups scale-up comme Ipsor, où on recrute, je vais passer un message au passage, on recrute aussi des gens qui viennent eux-mêmes de grands groupes. Et donc ces gens qui viennent de grands groupes, ils ont envie de voir finalement leur intéressement, leur participation, qui peuvent représenter jusqu'à 5, 10, 15% parfois de la rémunération annuelle globale, donc c'est assez conséquent. Ils ont envie de savoir s'ils sont perdants ou gagnants au-delà du salaire fixe.
Est-ce que vous pensez que dans un contexte de grande mobilité, à défaut d'être dans un contexte de grande démission, une belle épargne salariale, c'est un argument pour faire rester, parce que justement ça donne une vision long terme aux salariés?
Honnêtement, oui, j'en suis assez convaincu. Heureusement, en tant que fondateur d'Ipsor, j'en suis pleinement convaincu. J'en suis d'autant plus convaincu que ça représente vraiment parfois des montants assez conséquents et que les salariés qui ont déjà de l'expérience, et c'est eux qui sont les plus touchés par pas cette grande démission, mais par cette grande mobilité, je suis assez d'accord avec ça. C'est eux qui sont particulièrement touchés et eux, ils ont souvent déjà quelques années d'expérience et ils ont déjà vu l'intérêt de pouvoir se faire une épargne de moyen long terme avec l'épargne salariale, avec les primes qu'ils ont mis de côté au fil de l'eau. Et donc ça, c'est un avantage qui est de plus en plus perçu. C'est souvent quelque chose qui est plus difficile pour attirer des jeunes actifs sur le marché du travail la première fois, mais une fois que les gens sont entrés sur le marché du travail, clairement c'est un élément de différenciation.
Voilà, un élément de différenciation qui s'est démocratisé, on va le dire comme ça. Merci beaucoup Julien Niquet, cofondateur d'Ipsor, d'avoir été avec nous pour décrypter cet élément du package de rémunération des salariés. Merci de nous avoir suivis, c'était Happy Boulot le mag. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour continuer à parler de la vie de bureau, de la vie de boulot et de vos problèmes, mais aussi des solutions qui existent sur le marché. Je vous rappelle qu'on a un petit QR code pour ceux qui nous regardent en direct ou en replay. Vous pouvez flasher et retrouver l'ensemble de nos émissions et nos programmes sur BFM Business. Très très bon week-end.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.